Et à 7h30, c'est parti pour le journal. On retrouve Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Si la Calédonie accède à l'indépendance, la Polynésie va suivre. C'est ce que pense Oscar Temaru, le président du Tavini, qui apporte son soutien aux indépendantistes de l'Union calédonienne en visite actuellement au Fénois. Le référendum d'autodétermination doit avoir lieu en novembre prochain en Calédonie. Les charges de personnel continuent de peser lourd dans le budget des communes, mais la situation s'améliore d'après l'AFD, qui vient de publier son observatoire annuel des communes polynésiennes. La première pierre de la résidence Téloa à Harué a été posée hier. C'est la première construction d'un opérateur de logement social privé en Polynésie française. Et puis le surfeur Michel Bourez est en forme. Il s'est qualifié pour les quarts de finale de la première épreuve de la saison sur le spot de la Gold Coast en Australie.
Alors, les indépendantistes calédoniens demandent le soutien des Polynésiens.
Une délégation de l'Union calédonienne est actuellement au Fénois pour appeler la communauté polynésienne vivant sur le Caillou à soutenir sa lutte pour accéder à la pleine souveraineté, autrement dit à voter pour l'indépendance lors du référendum de novembre prochain. Selon le parti calédonien, 9000 Polynésiens pourront participer à la consultation, un chiffre pas négligeable. Le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, se dit serein à l'approche de ce référendum.
L'accord qui a été signé en 98 met en place les conditions pour réussir ce pari sur 20 ans. Et malheureusement, les rênes du pouvoir échappent aux indépendantistes, comme toujours. Et donc, forcément, la question est bien posée, celle de sortie sur le oui ou sur le non à l'indépendance. Mais nous, ça ne nous inquiète pas plus parce que nous sommes sur un processus et ce processus avance et il n'y a pas de retour possible en arrière. Les compétences antérieures qui sont transférées jusqu'à présent ne retournent plus à l'État. Elles sont des compétences qui sont exercées par les Calédoniens. Et désormais, ils vont s'attacher à les rendre conformes à notre culture, conformes à notre environnement, conformes à notre pays.
Daniel Goa indique que son parti travaille avec le député Moëté Brotherson sur le projet de loi relatif au référendum qui doit être étudié à l'Assemblée nationale mardi prochain. Pour le président de l'Union calédonienne, l'unité du peuple du Pacifique est essentielle pour sortir gagnant du référendum.
Un peuple qui perd parce qu'il est uni, d'un peuple qui est simplement mis en minorité chez lui. Mais un peuple qui perd parce qu'il est divisé, c'est un peuple qui ne mérite pas que l'ONU passe autant de temps à accompagner dans sa décolonisation.
L'Union calédonienne peut en tout cas compter sur le soutien du Tavini. Oscar Temaru annonce qu'il se rendra en septembre ou octobre en Nouvelle-Calédonie pour convaincre les Polynésiens d'aider les Kanaks à accéder à leur pleine souveraineté.
La Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. La Polynésie va suivre, Wallis et Futuna va suivre, la Martinique va suivre, la Guadeloupe. Tout le monde va y aller. Parce que c'est normal.
Ça a été mis en place depuis, 60 ans. Et obsolète. Il faut aller de l'avant. Encore une fois, ce droit des peuples à l'autodétermination, il faut le respecter et il faut l'accepter. Et c'est sûr que ça aura une influence ici, en Polynésie.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pombrin.
Donc on le voit, les élections approchent et comme à la veille de chaque scrutin, le représentant de l'État en Polynésie française entre en période de réserve.
À partir de dimanche et jusqu'au second tour des territoriales le 6 mai, le haut-commissaire René Bidal et ses services ne présenteront aucune publication, sauf celles qui concerneront les informations relatives à la procédure électorale, aux cérémonies officielles et à la sécurité des personnes et des biens.
C'est l'un des points relevés par l'Agence française de développement dans son observatoire des communes de Polynésie française qu'elle vient de publier. La part des charges de personnel dans les dépenses totales de fonctionnement des communes baisse.
Oui, de 62% en 2014, elle tombe à 58% en 2016. Ça veut dire que les communes maîtrisent mieux leurs dépenses de personnel, comme l'explique Vincent Joguet, chargé de mission à l'AFD. Et selon lui, il y a deux raisons principales à cela.
D'abord, par le passé, au moment de la crise, où il y avait peu de recettes, ça s'en ressentissait sur les recettes des communes, puisque les recettes de communes proviennent principalement du FIP, et donc d'une part des recettes de pays qui sont reversées. Du coup, les communes ont dû prendre les devants et maîtriser leurs dépenses de personnel, qui représentent la majorité de leurs dépenses, en ne remplaçant pas les départs à la retraite, notamment, et puis avec d'autres effets. Et puis, il y a eu la fonction publique communale qui est arrivée dans les années 2015-2016, qui a permis, je pense, de faire des économies.
Autre point positif, en 2016, les communes ont dégagé un montant d'épargne brute inégalé depuis de nombreuses années, ce qui a participé à la relance de leur investissement, une relance très attendue depuis la mise en place des nouvelles mandatures. Et pour l'AFD, il faut que cette tendance se confirme, les enjeux en matière d'équipement sont énormes. Même si les communes polynésiennes sont toujours réticentes à emprunter, ça va donc un peu mieux. L'an dernier, 13 communes ont fait appel à l'AFD. Thierry Paulet, le directeur local de l'agence, explique que les communes ont notamment voulu profiter des taux très bas.
Premièrement, les communes ont compris que quand elles le pouvaient, elles avaient intérêt à emprunter pour réaliser leurs investissements. Parfois, il y a des urgences. Hein. Par exemple, il y a des communes où la lentille d'eau, la nappe phréatique dans laquelle ils pompent est devenue saumâtre. Donc, il y a une urgence de faire des investissements pour continuer à desservir de l'eau potable. Mais de façon générale, les communes se sont rendues compte qu'elles avaient intérêt à emprunter. Et puis, il y a l'effet des taux. Hein. Les taux sont très bas depuis 2 ans maintenant. C'est même de mémoire de banquiers ou d'institutions financières. On n'a jamais vu des taux aussi bas. Donc, évidemment, ça incite les emprunteurs à emprunter.
Cette situation exceptionnelle ne va pas durer. Les taux sont en train de remonter. Mais l'AFD assure que ça restera intéressant puisque le gouvernement français fait un effort en injectant de la subvention, ce qui permet de faire baisser le taux.
Terrois, c'est le nom de la première résidence d'un opérateur de logement social privé au Fénois. Elle sera située à Haroué.
La première pierre de cette résidence a été posée hier en présence de l'État, du pays, de la commune et de l'opérateur. C'est la première résidence construite depuis la loi du pays de 2014 qui permet aux opérateurs de logement social privé de construire du logement aidé pour les ménages modestes et pour les ménages aux revenus supérieurs. L'objectif étant de venir en soutien de l'Office polynésien de l'habitat, l'OPH, pour permettre la construction de logements en Polynésie. La principale nouveauté de ce dispositif, c'est le financement de l'opération. On écoute le président de l'opérateur Punaora, Franck Zermati.
Grâce au gouvernement en fin 2014, avec cet agrément d'opérateur de logement social privé, nous avons pu bénéficier d'une défiscalisation métropolitaine en LODEOM, en logement social. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on a une subvention directe du pays à hauteur de 20%, plus des financements privés grâce à la Socredo et l'AFD. C'est inédit parce que c'est la première fois qu'un opérateur de logement social privé existe et sort avec un partenariat financier État, pays et privé. Et ça, on peut le souligner, ça n'existe nulle part ailleurs dans tous les Outre-mer.
Franck Zermati au micro d'Antoine Samoyau. Du côté des acheteurs locataires, 30% des logements seront proposés à des familles aux revenus modestes. Les autres logements iront à des ménages dont les revenus sont supérieurs au moins 246 000 francs par mois. Après cette résidence, l'opérateur doit lancer 2 autres opérations cette année, à FAA et à la Mission.
Et attention, une vigilance jaune pour les orages est en cours. Ça concerne les îles du Vent, les îles sous le vent, Mopelia et les Australes.
De la pluie est donc attendue. Et à ce propos, Météo France revient sur les intempéries du mois dernier. Selon ses calculs, même pour une saison des pluies, ces épisodes étaient exceptionnels. Février a été 2 fois plus pluvieux que la normale, surtout dans l'archipel de la Société.
Et puis un mot de surf pour terminer, Michel Bourez est en forme.
Le Spartan s'est qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve de la Gold Coast en Australie. Hier, le surfeur tahitien a remporté ses 3e et 4e tours en écartant notamment le Brésilien Adriano de Souza. En quart, Michel Bourez affrontera le jeune américain Griffin Colapinto.